Je vais donc vous parler un petit peu. Alors, on va remonter un petit peu le temps et se retrouver au XXIe siècle. Alors, tout à l'heure, j'ai un peu peur parce que j'ai vu le titre, j'ai regardé en plusieurs fois, Société savante, pratique naturaliste et nature en ville. Et depuis ce matin, j'entends parler que de botanique. Mais c'est très bien parce que justement, collègue botaniste de la société, je veux dire, j'ai appris plein de trucs et ça, vous ne le savez pas. Donc ça, c'est parfait et ça m'arrange bien. Donc voilà, alors la Société d'études des sciences nat d'Elbeuf aujourd'hui comporte, on a à peu près une centaine de membres. Il y a des amateurs très éclairés, il y a des professionnels, enfin des professeurs des collèges, des universités, des lycées, il y a des personnes du CNRS, il y a des médecins, il y a des conservateurs de musées aussi. Donc tout ce petit monde-là travaille ensemble pour d'ailleurs le plus grand nombre. Donc on va voir un petit peu les activités depuis une vingtaine d'années. Celles qu'on peut proposer notamment donc en ville parce que évidemment nature en ville, mais nature il n'y a pas que de la botanique évidemment il y a un petit peu tout, il y a de l'entomologie, il y a de l'ornithologie, il y a de la botanique bien entendu, mais il y a aussi par exemple de la géologie donc tout ça on va voir un petit peu ce que la Société d'études des sciences nat peut proposer sur les dix territoires d'Elbeuf, de la ville d'Elbeuf. Alors, comme tout le monde connaît très bien Elbeuf, n'est-ce pas? Donc, Elbeuf, voilà, ça se trouve à une quinzaine de kilomètres de Rouen qui se trouve ici. Donc, Elbeuf se trouve dans un des méandres de la Seine. Et donc, tout autour, ce qu'on appelle l'agglomération d'Elbeuf, comporte 10 communes. Les 10 communes d'Elbeuf-sur-Seine. Donc, Elbeuf, c'était une ville essentiellement textile jusqu'en les années 75. Où le textile a périclité et donc tout s'est arrêté au niveau du textile, mais qui était d'ailleurs très active au niveau du textile. On appelait d'ailleurs Rouen la ville aux 100 clochers, Elbeuf c'était la ville aux 100 cheminées. C'est pour tout vous dire, en fait, beaucoup de textile, mais donc tout ce qui allait avec, c'est-à-dire le charbon, tout ce qui va bien, bien entendu. Alors, des personnes importantes quand même que l'on peut nommer quand même, dont notamment Pierre Nourry. Alors, Pierre Nourry, il était préparateur d'ailleurs taxidermiste au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et donc, il s'est retrouvé, il était ornithologue, il s'est retrouvé, je dirais pas tout à fait par hasard quand même, mais à Elbeuf. Et donc, c'était en fait le premier à vouloir monter une société d'études des sciences naturelles en 1881. Donc, il a fait appel à pas mal de personnes, Alexandre Voiturier, Muller, etc., etc., Lance Levé, peut-être que vous connaissez, Auguste Coquerel. Et donc, il a monté cette société qui était d'abord appelée l'enseignement mutuel des sciences naturelles. Donc, cette société savante à l'époque, le mot société savante me dérange un peu plus maintenant, mais quoi qu'il en soit, à l'époque, c'était les sociétés savantes. Donc, celle de Rouen qui a été créée bien avant, en fait, ils ont travaillé bien entendu ensemble, puisque c'était juste à côté, en fait. Donc, Pierre Nourry, alors, quelque chose quand même qui est assez important que j'allais oublier, c'est que c'est aussi en 1884. Il va donner sa collection ornithologique à la ville d'Elbeuf, qui va lui donner une première salle, puis une deuxième salle, et il va être le premier conservateur en fait du musée d'Elbeuf. Donc, il va associer en même temps les naturalistes qui se sont rejoints à cette société d'études des sciences naturelles. Et donc, il va commencer. Alors, au départ, évidemment, ce sont sa collection ornithologique. Et puis ensuite, il va y avoir l'entomologie, il va y avoir même de la préhistoire, de la paléontologie, un petit peu de la mammalogie, l'herpétologie, malacologie. Enfin bon, un petit peu tout le monde des sciences naturelles. En fait, il va commencer. Au départ, s'il avait 3 salles, deviendront 7, puis 8, puis 10 salles. Donc, en fait, il a mangé tout le rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, donc d'Elbeuf, qui était très intéressant, du reste. Et donc, ça a commencé un petit peu comme ça. Alors, on verra par la suite que ces collections sont encore au musée et donc sont quand même très utiles. Alors, une autre personne qui l'a succédé, puisqu'en 1894, Pierre Nourry décède. Et donc, c'est une personne qui est aussi importante, puisqu'il va être non seulement le président de la Société des sciences nat pendant 50 ans, mais aussi le conservateur du musée pendant 50 ans. Raccourci de l'histoire, je suis aussi président de la Société des sciences nat et conservateur, mais je ne pense pas y rester 50 ans, ça, c'est sûr. Donc voilà. Mais alors voilà un petit peu le comment était le musée à l'époque. Donc c'était un catalogue ouvert, donc ça plaisait très bien. Enfin bon, c'était un catalogue ouvert sur la nature. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir aussi donc les bulletins de la Société des sciences nat. Et ça, c'est très intéressant, puisqu'on retrouve non seulement des articles, mais aussi des notes d'observation. Donc ça, c'est aussi important. Alors on va se rendre compte assez vite, en tout cas dans ces bulletins, qu'en fait, alors pour les connaître depuis quelques années, et en les feuilletant assez régulièrement, eh bien, on se rend compte qu'en fait, en ville, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de sorties de terrain. Hein, puisque en fait, ils vont. Alors, on a beaucoup d'articles sur les environs d'Elbeuf, etc. Mais sur Elbeuf même, en ville et dans les villes aux alentours, on n'a pas beaucoup d'articles sur ce qu'on peut y trouver. Alors, parfois, on trouve quelque chose. Notamment là, il y a l'Ensevelé qui doit parler. Je crois que ça doit être des unions. Enfin bon, peu importe. Mais c'est des choses qui sont très ponctuelles. Notamment aussi donc quelques anomalies végétales, mais vous voyez, c'est observé dans les environs d'Elbeuf. Hein, c'est jamais dans la ville, quoi, en fait. Sauf que il y a quand même des personnes qui se sont intéressées, donc notamment à l'époque, donc il y a le musée, mais donc qui est l'hôtel de ville. Hein, le musée fait partie, enfin a pris tout le rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Et puis donc il y a un parc, pas un jardin, hein, mais un parc avec pas mal d'arbres. Et à l'époque, c'est Hippolyte Saint-Amand, en fait, qui est botaniste et qui va étudier qui va recenser. Et c'est le premier à recenser en fait ces arbres du musée, enfin de l'hôtel de ville. Donc il va faire des super plans. Enfin bon. Donc il y a quelques études qui sont faites par la suite, par Martel, donc Cécidie des environs d'Elbeuf, donc ces galles, etc., avec des planches qui, moi j'adore toujours ces planches, mais bon, ce sont à peu près les seuls en fait qui ont pu travailler en fait dans la ville d'Elbeuf. Alors, quand je dis dans la ville, il faut entendre territoire d'Elbeuf. Puisque voilà, en fait, vous avez le bras de Seine qui est ici, vous avez Elbeuf qui est ici. Et donc les territoires de la commune d'Elbeuf, en fait, se trouvent, c'est tout ce qui est entouré en noir. Voilà. Donc il y a 10 communes, en fin de compte. Alors, même il y a pas si longtemps que ça encore, la Société des sciences nat, en fait, ils allaient à l'extérieur. En fait, il n'y a pas grand monde qui a travaillé dans la ville, ce qui était quand même assez impressionnant. Et donc, il y a déjà quelques décennies. Alors, j'ai oublié de mettre le district d'Elbeuf, puis ensuite l'agglomération, ensuite la Créa, puis par la suite la métropole de Rouen. Enfin bon, les premiers, c'est le district d'Elbeuf qui nous a demandé, il y a plus d'une vingtaine d'années, si on voulait pas ou si on pouvait pas travailler en fait dans les différentes communes sur des inventaires. Donc pour la mise en valeur entre guillemets de la faune et de la flore, et de voir un petit peu ce qui se passait. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'inventaires, mais c'était à l'extérieur. C'était parfois dans l'Eure, c'était parfois sur les hauteurs de Rouen, mais jamais trop en fait dans les villes sur Elbeuf. Donc c'était quand même assez intéressant. Et puis, alors au départ, ça n'a pas été facile, je vous l'accorde en fait, de convaincre les différentes personnes de pouvoir faire des inventaires dans les villes. Bah, à quoi ça sert? Il n'y a rien. Mais c'est vrai. Quand je dis c'est vrai, je ne vous mens pas quand je dis ça. Hein. J'allais dire aux entomos, on va faire des inventaires. Qu'est-ce que tu veux faire comme inventaire dans la ville, toi? Et en gros, c'était ça. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que, justement, la biodiversité et la géodiversité, parce qu'il faut quand même en parler, hein, c'est des sciences naturelles. Et donc, eh ben, parfois, ce n'était pas si pauvre que ça. Alors, tout le monde s'y est mis. Ça a été dur. Mais tout le monde, quand même, a joué le jeu et tout le monde s'y est mis. À part quelques récalcitrants, mais eux, ils sont tombés à la Seine, on ne sait pas trop pourquoi, et voilà, on n'a jamais retrouvé cela. Donc, la commune, enfin, les communes possèdent quand même aussi des parcs, donc avec de la faune, de la flore. Donc, vous avez des parcs, il y a même un hippodrome. On s'est aperçu qu'il y avait le raisin d'Amérique, là, qui commence à envahir depuis quelques années. Ça, on ne l'avait jamais observé, mais c'est justement en faisant un tour dans ces parcs, surtout sur l'hippodrome, qu'on a pu s'apercevoir que ça envahissait et on ne l'avait jamais vu dans le coin, alors que, parce qu'il est tout au fond, tout bien planqué, etc. Puis il y a des trucs assez rigolos, hein, vous voyez, il y a même les écureuils qui viennent manger dans les poubelles, en fait, ça c'est dans un collège à Saint-Aubin-les-Elbeuf. Bon, il y a des choses assez intéressantes et rigolotes de toute façon à observer. Alors, Je prends que quelques exemples. On a un plan d'eau, par exemple, c'est ce qu'on appelle, alors c'est une ancienne ballastière, les anciennes carrières de granulats, ce qu'on appelle l'étang patin. Alors, étang patin, patin, tout simplement, parce qu'une entreprise patin qui est là. Maintenant, on dit, il faut dire, la commune nous a dit, non, il ne faut pas dire étang patin, il faut dire étang berge de Seine. C'est mieux. Bon, enfin bref, pour moi, c'est toujours l'étang patin. Donc, le Vlas, c'est étang. Et c'est vraiment. Alors, vous avez Cléon qui est ici, hein, donc c'est vraiment à la limite, et la Seine qui est ici. Et donc, dans cet étang, on a commencé déjà à faire des observations en ito, et puis en tomo. Enfin, on a commencé à faire pas mal d'observations. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que les écoles sont juste à côté. Donc, déjà, elles n'ont pas besoin de prendre le bus pour venir. Donc, on se déplace, nous, pour aller donc les accueillir, et puis, enfin les accueillir, les diriger, et puis observer aussi, et surtout leur expliquer un petit peu ce qui se passe dans la nature, et que parfois, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est juste des petits comptages, hein, mais voilà, ça permet d'observer, on s'aperçoit quand même que sur cet étang qui n'est pas si loin, enfin qui est vraiment à proximité de la ville, il y a quand même des migrateurs, etc. Et donc, c'est quand même pas rien. Hein. Et en fait, on se rend compte qu'entre les grands étangs qui se trouvent du côté de l'Eure, les riposes, etc., où il y a des observatoires, etc., où il y a beaucoup de migrateurs, eh bien cet étang-là, c'est aussi un passage. Donc, si on arrive au bon moment, eh bien, on peut les observer. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Et donc, tout est compté. Et donc, chaque année, à chaque saison, donc les ornithos en fait, vont sur le terrain pour faire ces observations, ces comptages. Alors, ce qui est aussi marrant, c'est qu'il faut vraiment suivre. Mais par exemple, là, vous avez les grébupés. Donc, on suit le même couple toute une saison, des parades jusqu'à la fabrication du nid qui est flottant, et jusqu'à la. Enfin, ils pondent leurs œufs, et puis jusqu'à la couvaison. Et ensuite, on suit en fait les petits pour voir s'il y a toujours, s'il y avait deux œufs, s'il y a toujours deux petits, et d'essayer de comprendre si on n'en voit plus du tout, pourquoi ils ont disparu. Alors, tout ça, c'est pas pour rien. Donc, évidemment, ça rentre dans un inventaire. Les nids flottants, d'ailleurs. On a réussi aux élus parce que le tour de cet étang était régulièrement coupé, fauché, parce que ça faisait plus joli, évidemment. Et quand on leur a montré qu'en fait, si on pouvait laisser en fait, juste sur les berges, les roseaux, etc., les grandes herbes, etc., eh bien déjà, les grèbes, et pas que, d'ailleurs, les foulques, etc., pouvaient nidifier en fait, proche de ces berges. Et puis ça empêchait aussi une chose, à votre avis. Qu'est-ce que ça pouvait empêcher ? Non, pas les rats. Les rats, c'est rien, ça. T'inquiète. Non plus, non. Sinon, on en a mis des pièges à loups après. Donc ça. Non, ça empêche simplement, par exemple, les plastiques quand il y a du vent ou quoi que ce soit, les bouteilles d'eau, tout ça, d'aller dans les temps, puis d'aller les chercher. Alors, pas à la nage, évidemment, mais d'aller les chercher. Donc, ça évite, en fait, le nettoyage. Donc, quand ils ont compris ça, quand on leur a expliqué ça, et montré surtout, parce que c'est pas le tout d'aller dans un conseil municipal puis d'expliquer ça, il faut montrer. Et donc ça a permis ce genre de choses. Et puis ça permet aussi de faire des panneaux avec ce qu'on a pu voir. Et donc ces panneaux sont présentés à côté de l'étang et sont présentés aussi dans les écoles ou dans les bibliothèques. Donc voilà à quoi aussi ça peut servir. Alors, il y a la trame verte, la trame bleue, vous connaissez. Eh bien, ça, c'est la même chose. Donc, en fait, on présente le long de la trame verte ces panneaux. Là, c'est juste un exemple, hein, mais le long de cette trame, donc ces panneaux qui sont là-bas en permanence. Donc, ça, ce sont les inventaires. Alors, les inventaires, c'est juste un exemple. Je vous montrerai tout à l'heure ce qui a été produit par les personnes de la CEST. Bon, c'est un pavé qui est, faut vraiment aimer les inventaires. Personnellement, bon. Non, mais c'est utile. Alors, il y a, en plein Elbeuf, il y a ce qu'on appelle le jardin Winou, qui était un ancien maire d'Elbeuf. Et donc, en fait, ils ont monté un jardin, enfin, peu importe. Quoi qu'il en soit, il y a une source, en fait, qui est tout à fait naturelle. C'est ce qu'on appelle la source du Puchot. Le Puchot, c'est, alors, j'appelle ça une petite rivière, même si c'est petit. Quoi qu'il en soit, ça se jette dans la Seine. Et donc, cette source, qui est complètement naturelle, se trouve au milieu de, en plein milieu de la ville, hein, même si ça ne paraît pas sur ce côté-là. Moi, juste derrière, j'aurais pu mettre une photo, ce sont des immeubles. Alors, un jour, évidemment, le maire est venu me voir en me disant « Jérôme, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors, j'ai dit « pas tout de suite ». Donc, nous sommes partis avec la SEST, les botanistes, les entomologistes, enfin un petit peu tout le monde, voir un petit peu ce qu'il y avait. Donc, on s'est aperçu que ce que je vous disais tout à l'heure, qu'en fait, bah, y a certaines parties qui ne sont pas si pauvres que ça. Et notamment, on a trouvé donc Gasterosteus, c'est l'épinochette, quoi. Donc, l'eau, ça veut dire que l'eau, elle n'est pas si polluée que ça. La seule pollution, c'est le plastique qu'on voit à la surface ou les bouteilles de verre qui sont en dessous ou les mobilettes aussi. Mais ça, c'est normal. Donc, nous sommes à Elbeuf, hein, faut pas croire. Et donc, quoi qu'il en soit, donc on a fait une espèce de zonation, en fait, notamment de la végétation. Et donc, en fait, ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne l'a pas fait... il voulait tout faire d'un seul coup. On lui a dit non, il faut faire par partie, justement. Et pas tout d'un coup. Comme les mares forestières. Quand on cure une mare forestière, on ne fait jamais tout d'un seul coup. Hein, on fait une année, on fait un quart... Voilà, ça prend du temps, mais au moins ça permet à une partie, je dis bien une partie, parce qu'il est évident, qu'on peut pas faire ça là, mais simplement une partie qui peut être curée, et puis l'année suivante, etc. Alors normalement pour les mares forestières, on les met sur les côtés, hein, on met tout ce qui a été les boues, etc. On les met vraiment sur la berge. Pour éviter justement aux larves, etc., qui puissent repartir donc dans la mare. Là, évidemment, alors c'était juste pour rigoler, parce que j'ai dit au maire, bah, écoute, tu mets tout ce que tu peux, tu mets sur le bord. C'est ça. Donc, il y a plusieurs camions, comme vous voyez ici, hein, plusieurs camions qui sont partis, et c'était vraiment du déchet, quoi, en fait. Et donc, il y a eu un suivi sur 3 ans exactement. Et puis, c'est reparti, quoi, en fait. Et donc, en amont, on s'est aperçu aussi en aval, dans la partie qui se jette dans la Seine, que ça n'avait pas bougé ni rien. Donc, épinoche, mais aussi des gamards, agabus, hein, qui est un petit coléoptère aquatique. Enfin, bon, c'était quand même... Bon, c'est bien revenu, sans problème. Alors, ça, c'est à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Donc, l'oison, je vous ai dit l'oison tout à l'heure ou le puchot ? Le puchot, bon, c'est bien, je me suis pas... Donc, l'oison, en fait, c'est une petite rivière aussi, hein, qui prend sa source une quinzaine de kilomètres, en fait, de Saint-Pierre-les-Elbeuf, où est basée la Cesne. Et elle traverse donc toute cette ville, alors parfois en dehors, parfois en dessous, puisqu'elle est canalisée, complètement canalisée. Et puis donc, la commune nous a demandé, toujours pareil, pour des balades, pour sensibiliser le public, faire une sorte de circuit de randonnée, entre guillemets, plutôt de balade et d'observation. Donc, avant toute chose, pour faire ces circuits, il faut faire aussi des inventaires, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe. Notamment en botanique, par exemple. On ne va pas faire passer des personnes s'il y a des espèces patrimoniales ou quoi que ce soit, par exemple. Hein. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est ce qu'on a fait. Puis, par contre, on s'est aperçu là, dans l'oison, en tout cas dans cette partie-là, ce n'était pas si riche que ça quand même. Donc, on ne sait pas trop pourquoi, parce que ça n'a pas l'air tellement pollué. Il y a beaucoup de gamards, il y a les gyris. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'évidemment, l'oison se jette dans la Seine, on retrouve des petites anguilles. Des petites anguilles. Alors, pas beaucoup, mais on retrouve quand même des petites anguilles. Donc, elles doivent bien remonter quelque part, quoi. Donc, bon, ça, c'est assez rigolo. Et c'est surtout, c'était inattendu, quoi. Alors, donc, on a trouvé donc Vélia Caprès, c'est une punaise d'eau. Et puis, les botanistes, là, qui regardent ceux qui se mouillent. Ça, c'est pour me venger. Donc voilà, regarde, ils sont sur le pont, pendant qu'il y en a d'autres qui ont les pieds mouillés. Donc voilà, en fait, ça passe là. Donc c'est vraiment en pleine ville. L'oison passe juste en dessous du pont. Et donc, ça passe vraiment en pleine ville. Donc sans problème. Donc on a déterminé donc un circuit de balade, en fait. Donc toujours pareil, avec des panneaux, par rapport à ce qu'on avait pu voir. Donc bon, il y a quelques insectes. Alors c'est marrant parce que Aromia moschata, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un petit longicorne floricole. Et donc celui-ci, normalement, c'est la première fois qu'on le voit dans le coin. Et juste en faisant ce genre de balade, en essayant de faire un inventaire de ce qu'on pouvait voir, ben voilà, là, les entomos, on va continuer quand même parce que du coup, il y a des choses intéressantes. Hein, donc toujours pareil avec des panneaux qui expliquent quand même un petit peu ce qui se passe dans le secteur. Ou pas dans le secteur. Alors on retrouve les botanistes, hein, qui ont quand même pas mal travaillé. Et puis... Ils ont travaillé surtout, enfin, ils ont travaillé donc aussi dans les parcs, parce que du coup, ça les a pas mal intéressés. Donc, ils ont fait aussi tout ce qui est l'écologie, etc. Et puis, ils ont travaillé aussi sur quelque chose, donc tout ce qui est bryophyte. Alors, il n'y a pas que les villes, mais ils ont travaillé aussi donc, sur les œsanthocérotes hépatiques et mousses de Normandie, mais celles aussi dans les villes. Et donc, il y a eu des choses. Donc, c'est un bouquin qui fait plus de, je crois qu'il y a 550 fiches qui ont ce style-là, quoi, en fait. Voilà, donc, c'est des coupes, etc. Donc, c'est pour le débutant. Mais moi, quand je vois ça, il faut déjà être un bon débutant quand même, quoi. Hein. Donc voilà, donc c'est des fiches hein, qui servent, c'est un gros format hein, qui servent donc pour trouver, parce que pour publier quelque chose comme ça pour une association, eh bien, on s'est mis évidemment à la Fédération française des sociétés de sciences nat, c'était quand même pas mal et puis un peu plus facile, et donc avec les amis aussi des sciences naturelles de Rouen et du Muséum. Il est plus disponible hein, pour l'instant, donc si vous le voulez. Donc, ils ont commencé aussi à travailler, donc toujours dans. Alors là, ils ont. Ça fait peu de temps, mais donc sur les caras, enfin les caracées, quoi, ces petites algues, quoi, en fait. Hein, et donc, voilà. Ils sont en train de faire la même chose sur les caracées. Bon, ils sont tous à la retraite, hein, donc ils ont du temps aussi, hein, faut dire ce qui est. Heureusement qu'il n'y a personne. Enfin, ils ne sont pas là pour m'entendre. Et donc, alors, en ce qui concerne en entomologie, alors, donc, ces inventaires, évidemment, bah, parfois, il faut prélever. Pas trop, notamment, en ce qui concerne notamment certains coléoptères, mais même pas que les coléoptères, il faut faire les genitalia pour pouvoir les déterminer. Et donc, il faut les prélever. Tous ceux qui sont prélevés, en fait, sont dans des boîtes. Ces boîtes sont numérotées. Là, vous en avez de 2017. Hein, d'ailleurs, zéro, ça veut dire un recollement. Puis, c'est la deuxième. C'est la. 2047e boîte de l'année 2007, en fait. Donc tout ça, c'est bien répertorié. Et évidemment, ce qui se passera par la suite, c'est que ça viendra au musée. C'est normal, quand même. Et donc, mais ce que je veux dire, donc, ça va au musée, c'est pas perdu. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés de sciences naturelles. Déjà, c'est très dur pour ces sociétés, pour certaines d'entre elles, qui n'ont pas de locaux ou quoi que ce soit. Et donc, bah, tout leur matériel, bah, ça va chez les uns et les autres. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui disparaît, les héritiers, on s'en fiche. Et donc, tout est perdu, quoi, en fait. Là, ça va directement. Il y a une convention aussi donc, avec la métropole, donc avec le musée d'Elbeuf. Quand tout est étudié, pour laisser de la place, ça va au musée, quoi, en fait. C'est ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle avec Nourri, avec Coulon, etc. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, il y a à peu près 175 pages. Donc c'était évidemment, quand on a des subventions, bah, faut quand même rendre des comptes. Et donc c'est un peu normal quand même. Et donc ça, c'est pareil. Donc c'est un inventaire zoologique et botanique donc sur le méandre d'Elbeuf. Donc ça, c'est distribué à la DREAL. C'est distribué évidemment à la métropole, etc. C'est distribué à ceux qui le veulent. Hein. Enfin bon, je vous dis, hein, c'est voilà ce que c'est. Hein. C'est 200 pages comme ça. Mais donc voilà, il y a par exemple là, on est en pleine ville, hein, Côte-Bec-les-Elbeuf, Marrue, Anatole France. Vous avez les Tricus. Enfin bon, je vous passe les noms. Enfin voilà, donc on a la date, on a le lieu, parce qu'il y en a encore une partie de ce côté-là hein, qui est pas encore parce qu'il n'y avait plus assez de place. Mais voilà, donc ça c'est. Ça peut servir. Alors, on est passé sur un autre format qui est le format de l'OBHN. Alors là, ça commence à être compliqué pour certains. Pour certains, ça commence à être compliqué. Donc, puis, il y a des codes qui remplacent les communes. Enfin bon, il y a tout un. Voilà. Alors, parler de géologie tout à l'heure. Ben je vais vous donner l'exemple de la côte Sainte-Catherine. Il y a déjà quelques années, les préfets ont demandé en fait au DREAL de parler, c'est de commencer à travailler sur les inventaires en fait de la géodiversité. En fait, c'est l'inventaire du patrimoine géologique, hein, l'émanation du muséum, du reste. Donc, de pouvoir travailler sur les inventaires. Et c'est-à-dire que donc on a monté ce qu'on appelle les CRPG, donc les commissions régionales patrimoine géologique. Et donc, à l'époque, c'était Haute et Basse Normandie. Donc, moi, j'étais coordinateur de la Haute-Normandie. Donc, j'ai fait appel à des professionnels. Hein, et puis, pas que des professionnels, mais aussi à des amateurs qui faisaient partie des différentes sociétés de sciences naturelles du coin. Et donc, on a travaillé ensemble pour l'inventaire de sites qui étaient quand même... Enfin, qui nous paraissait intéressant, donc à plusieurs niveaux, au niveau pédagogique, au niveau scientifique, au niveau historique, à plusieurs niveaux, quoi. Donc un qui était en ville, notamment, c'est la colline Sainte-Catherine. Voilà, en fait, le site est juste derrière cette espèce de mur, là. Et quand nous sommes arrivés, voilà à quoi il ressemblait. Et puis, donc on ne voyait pas grand-chose, quoi. Il fallait juste connaître un petit peu le secteur. Donc on est tombé, évidemment, sur ce qu'on appelle le faciès de la craie de Rouen. Donc, qui est un étage assez particulier, mais c'est surtout ici que ça a été déterminé, hein, par Dorbigny, du reste. Et donc, on a tout nettoyé. Et puis, donc on se retrouve, alors je vais vous passer les détails, hein, Cénomania inférieure, enfin vous connaissez tout ça, bien entendu, hein, Cénomania inférieure, Grande de Rouen, et puis la craie de Rouen qui se trouve juste au-dessus avec l'antifère qui est ici. Donc, avec les différents fossiles qui ont été trouvés. Enfin, peu importe. Et là, le but du jeu, en fait, c'était de faire des moulages des fossiles et de pouvoir les poser justement sur les parois pour que le public puisse comprendre un petit peu les différentes choses. Et là, donc, c'est le Conservatoire des sites naturels dont je fais partie, au sein du comité scientifique, qui gère cette partie de colline. Et donc, il y a des grandes chances que ça soit... Alors, ils vont protéger la faune-flore, bien entendu. Mais là, j'ai dit non, il faut quand même faire quelque chose pour la géole parce que c'est quand même assez important. Tout était déjà fait. Donc là, il faut faire quelque chose et j'espère que ça sera fait. Donc voilà ce genre de fiches, hein, pour tous les sites, d'ailleurs, en Normandie. Et à l'époque, c'était en Haute-Normandie. Enfin, peu importe. Et donc ça, c'est juste une partie parce qu'il y a plusieurs feuilles. Donc on a la description physique, les collections, etc. Puis derrière, normalement, il y a l'intérêt scientifique, l'intérêt pédagogique, etc., etc. Et puis, c'est un stratotype de faciès, et donc on met 3 étoiles, hautement protégées. Voilà. Donc c'est entre 0 et 3 étoiles. Quand il y a 3 étoiles, c'est que c'est hautement protégé. 0 étoiles, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. C'est-à-dire que si le site disparaît, bon, c'est pas bien grave parce qu'il y en a d'autres qu'on peut retrouver, quoi, en fait. Et donc ça, c'est à l'INPG, l'inventaire du patrimoine géologique, c'est tout à fait accessible maintenant, ce genre de fiches, et sur toute la France. Ça nous permet aussi de pouvoir travailler. D'ailleurs, alors il faut avoir l'œil, évidemment, alors il y en a qui rouspètent parce qu'évidemment, quand je leur dis, moi j'aime bien quand ils creusent et puis qu'ils vont construire des maisons ou des immeubles, je dis ça en plaisantant, bien entendu, mais quoique pas toujours, parce que quand ils creusent, évidemment, ils tombent sur des niveaux qui sont toujours intéressants. Puis ça nous permet aussi, alors vous voyez, là c'est pareil, c'est juste en pied de colline, hein, c'est en pleine ville qui se trouve ici, c'est à Rouen. Et donc là, alors maintenant tout ça on le voit plus, parce qu'évidemment il y a des immeubles dessus, mais quand on a la chance de passer, et justement ce sont des amateurs qui passaient là, qui faisaient de l'entomologie, qui nous ont dit il faut aller voir quand même, et donc ça nous a permis de lever une coupe. Pourquoi on le fait ? C'est pas pour la gloire, c'est simplement parce que comme ça va disparaître, hein, évidemment, il va y avoir des immeubles dessus. Enfin, il y a des immeubles maintenant dessus. Eh bien, si on ne va pas lever la coupe tout de suite, on ne le voit pas, quoi. Et on ne sait pas ce qui se passe. Donc, si on fait ça à chaque endroit, enfin, je vais passer les détails, eh bien, on peut faire des corrélations stratigraphiques. Alors, tout ça, c'est pas fait pour rien, les déterminations, hein. Donc, ça, c'est un des locaux de la Société d'études des sciences NAT. Donc, il y en a quand même qui travaillent. Hein, donc, il y en a qui travaillent. Là, il y a tout un groupe. En fait, là, ce sont les botanistes d'Elbeuf, mais aussi de Rouen, hein, qui viennent sur puis vice versa, de toute façon. Alors, en ville, il y a aussi de la géologie à faire en ville. Il y a des balades géologiques à faire en ville, parce que quand on va sur tel ou tel monument, eh bien, on peut raconter énormément de choses. Là, je regardais tout à l'heure ce que vous avez. Là, les blocs de granit, vous avez vu qu'il y avait des entailles. Enfin, vous savez à quoi ça sert, ça ? Eh ben voilà. Eh ben c'est certainement du granit qui vient des îles anglo-normandes. Et en fait, c'est les barres de métal qu'ils mettaient. Ils ne mettaient pas de dynamite, mais ils tapaient donc dans ces barres pour enfoncer dans le granit de chaque côté pour sortir les blocs. Et là, vous avez la trace. Et ça, c'est marrant. Et vous avez du calcaire coquillé sur ces très belles sculptures, n'est-ce pas, en bas, qui sont juste en bas, quoi, en fait. Et donc, ça, c'est du calcaire coquillé tertiaire. Eh bien, on peut raconter la même chose sur les monuments. Hein, donc, certaines pierres, notamment sur celle-ci, viennent de la carrière, de Caumont, qui se trouve à côté, qui a été importée un peu partout dans le monde. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses à raconter. Donc voilà, enfin bon, je vous ai mis un petit exemple, donc avec des silex, de la craie, donc silex dur, solidité, calcaire tendre, souplesse. On fait des grandes balades en géologique. Et puis évidemment, tu me dis combien de temps il reste ? Oh mince. Donc il y a évidemment, on participe aussi aux semaines européennes du développement durable, donc des programmes où on monte en général donc le salon des fleurs. Des fleurs de printemps. Et donc, c'est pareil. Donc, c'est pour les écoles. Et puis, donc, c'est surtout des fleurs. Évidemment, avec les écoles, on va en ville. On va chercher, entre autres, ce qu'on peut trouver en ville ou en bordure de forêt. Donc, voilà. Donc, ça, on va passer, puisque c'est la même chose. Évidemment, la semaine de la science. Hein, donc, semaine de la science. Donc, ça, c'est l'incontournable. Avec, pareil, des stands. Hein, donc des stands en sciences nat, là c'est dissection de pelotes de réjection, enfin bon ça c'est connu, mais enfin ça plaît toujours. Et puis ça permet de parler un petit peu des rapaces dans le secteur, de savoir ce qu'ils mangent, etc. Donc ça les gamins, on leur raconte un petit peu tout ça, quoi. Et puis évidemment les sorties de terrain, par exemple là c'est une mare qui se trouve dans un petit parc, enfin, donc on emmène aussi les enfants dans les parcs. Et puis parfois ça se passe à l'intérieur du musée. L'avantage à l'intérieur du musée, c'est qu'évidemment, il y a le stand, mais il y a aussi les collections. Donc, c'est-à-dire les collections sont juste à côté. Donc, les classes, elles ont juste, on leur parle de chouettes. Voilà. Alors, par contre, amener une chouette effraie sur un stand, il faut faire attention parce que c'est une espèce protégée. Hein, donc, si on se fait gauler par... c'est pas bon du tout. Ouais, beau être conservateur de musée, non. Et puis, il y a les balades aussi. Les balades... Là, c'est des balades des berges de l'étang. Et donc, en fait, c'est une rando-lecture. Et ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'au démarrage, là, donc, c'est la bibliothèque de Cléon. Et puis ensuite, eh bien, on va se balader un petit peu dans la ville. Et donc, il y a un compteur qui est ici et qui s'arrête devant telle ou telle plante, telle ou telle pierre, enfin, peu importe, et qui va raconter, alors évidemment, c'est pas avant, qui va lire une petite histoire ou un poème. Et puis ensuite, il y a une personne qui va expliquer pourquoi la plante est là, ce que c'est comme plante, etc. Et ça fonctionne bien parce qu'il y en a pour tout le monde. Les permanences du vendredi. Tous les vendredis soirs, alors je fais pas de pub, hein, mais tous les vendredis soirs à 18h, en fait, on ouvre au public. C'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent venir, en général, c'est des personnes de Saint-Pierre-et-Zelbeuf qui ont trouvé quelque chose. Alors maintenant, on leur dit pas, on leur dit plus ramenez, prenez si vous pouvez en photo, parce que parfois ils vous ramènent des trucs. Ramener des insectes à moitié, qui sont plus tellement en forme, c'est pas terrible, quoi. Donc maintenant, ils ont pris l'habitude de prendre des photos. Alors parfois, c'est pas facile de leur dire, non, ça, en fait. C'est pas terrible, mais faut leur expliquer. Et ça fonctionne aussi très bien. Donc c'est participatif aussi en quelque sorte. Mais ça nous permet aussi, alors quand c'est intéressant ou du jamais vu ou quoi que ce soit, enfin peu importe selon les saisons, mais ça rentre aussi dans les inventaires. Donc ça on leur explique et on leur montre et on le fait devant eux. Donc ils sont contents, quoi. 24 heures de la biodiversité en ville, ça c'est assez rigolo aussi, donc avec des stands qui sont montés. Et c'est surtout les habitants qui rigolent parce que quand ils voient des élus berlus comme ça avec les filets à papillons en pleine ville, ceux-là ils vont pas bien, quoi. Et pourtant, bon, nous aussi on rigole bien, mais voilà, il y a des choses à faire. Le salon des champignons et baies d'automne, donc ça c'est depuis 32 ans, donc c'est ce qui se passe à la Société des sciences nat d'Elbeuf, évidemment, sauf l'année dernière, et pour cause. Mais ça aussi, donc sortie de terrain, et puis donc les mycologues qui sont ici, en général, il y en a plusieurs qui font partie de la Société mycologique de France, et donc voilà, ça ramène aussi du monde. Donc tout ça, alors évidemment, il y a dans les forêts, mais il y a aussi sur les bords et en ville aussi. Parce que mine de rien, il y a des champignons aussi en ville et à chaque fois, les personnes nous les ramènent pour dire « mais qu'est-ce que c'est ?» Et donc, parfois, il n'y a pas besoin de faire trop de sorties en forêt pour trouver les champignons. Alors, il y a la mycologie et puis il y a aussi les mycophages. Alors, donc, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Et puis, donc il y a aussi, on est aussi sollicité, donc, alors je vous l'ai dit, chez les primaires, etc., mais on va aussi dans les collèges et lycées. Et je vais aussi à l'université, quoi. Donc, ça permet aussi de sensibiliser. Et parfois de montrer un petit peu à des élèves qui n'ont pas l'habitude qu'il y a encore des choses sur le terrain. Et ça, c'est pas toujours vu. Maison forestière, donc les chantiers nature, c'est pareil. Donc là, vous avez les essarts. Ça se trouve ici, la maison de la nature. La maison de la nature, la maison forestière. Et donc pendant une semaine, en fait, il y a du monde sur le terrain. Donc des botanistes, des entomos qui sont sur le terrain et qui entourent donc des gamins qui sont amenés par la MJC. Donc il y a les animateurs de la MJC, la Maison des Jeunes et de la Culture. Et puis il y a plusieurs, vous voyez ici, hein, il y a plusieurs animations, etc. Donc ma bonne tradition. Semaine de la plantation, ville de Cléon. Hein, je vous ai fait voir tout à l'heure, mais bon, ça c'est sur l'étang et donc on amène les enfants en fait sur les sites. Et puis les centres. Donc pendant le temps périscolaire, en fait, on ne savait plus où donner de la tête parce qu'on nous demandait partout. Et donc sur certains centres, donc j'ai donné qu'un exemple. Donc celui de Saint-Aubin. Donc Saint-Aubin, vous avez une voie de chemin de fer qui passe juste ici, la ville qui est juste de l'autre côté, et le centre qui est là. Et ben on s'est aperçu que les gamins, vous voyez le sourire, puis elle a trouvé un ver de terre, quoi. Voilà. Non, mais c'est quand même fou. Donc imaginez-vous quand ils trouvent un cloporte. Vous trouvez des blocs de craie parce qu'on est sur un sol de craie, on leur explique, alors vous cassez le bloc de craie puis vous trouvez un fossile, alors là c'est magnifique, quoi. Ouais. Pour eux c'est magnifique, donc voilà, et pour nous aussi, hein, parce que c'est de la bonne rigolade. Donc ça va aller vite maintenant, jardin archéologique, parce que même si c'est pas des sciences naturelles, il y a quand même ça en ville, hein, donc jardin, c'est les anciennes villas gallo-romaines, hein, donc avec une reconstitution ici, mais là cette photo-là on voit pas bien, donc avec les fondations qui ont été gardées, en fait ce site a été fouillé pendant 10 ans de 80 à 91, et il a été découvert en 81 et fouillé de 85 à 91, et donc il y a beaucoup de choses qui ont été trouvées et qui sont au musée maintenant. Voilà, donc il y a les publications de la CES, enfin, tout ça c'est en ligne. Et puis il y a le travail au musée. Alors le travail au musée, tout simplement, parce que quand on fait des inventaires, il faut savoir aussi à quoi ça peut servir. Et donc il y a certaines personnes, les entomologues, Patrice Stalin, qui va reprendre les anciennes collections pour regarder les provenances, par exemple. Les anciennes collections de personnes qui ont pu les donner à la CES, pour voir les provenances, etc. Et puis voir les comparaisons un petit peu entre ce qu'il y avait début du XXe et puis ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Ouais, ça, c'est autre chose. Et puis voilà. Bah, je vous remercie de votre attention.
Merci Jérôme pour ce retour d'expérience sur le terrain. Alors, on va prendre quelques questions.
Ça vient pas d'une photo sur Internet. Hein. C'est juste en face à Elbeuf.
Moi, j'ai deux questions. Une très naïve. Comment elles ont été constituées, les collections d'oiseaux? Il allait piéger les oiseaux. C'est des oiseaux locaux, d'abord. Et il allait les piéger lui-même. Comment ça se passait?
Alors, on ne sait pas trop comment ça se passait. Mais à cette époque-là, il y en a beaucoup qui prenaient un fusil quand ils n'avaient pas le... Voilà. Donc, c'est certainement arrivé comme ça. Alors, ce n'est pas toute sa collection d'oiseaux à lui, mais comme il y avait aussi, donc comme en botanique, vous l'avez bien dit tout à l'heure, hein, il y avait aussi des échanges. Par contre, ces préparations, on les reconnaît parce que c'est en France, si ce n'est pas lui, mais c'est un des premiers à avoir naturalisé, et ça, on sait très bien que c'est lui, à avoir naturalisé les oiseaux en position dynamique. Parce que pendant très longtemps, en fait, évidemment, il fallait montrer tout ce qu'il y avait dans la nature, donc très austère. Hein. Mais lui, c'est un des premiers. Donc, parce qu'il y a pas mal de rapaces, donc il a pu naturaliser. Il y a des rapaces, mais il y a aussi des charognards, hein, gypaètes, etc. Donc, on ne sait pas trop comment c'est arrivé là. On ne sait pas trop. Mais je pense que, ou alors, comme il était déjà préparateur au muséum, on pense plutôt ça, au muséum de Paris, il devait peut-être récupérer et puis naturaliser et rapporter. Je pense que c'est comme ça qu'il a fait, parce que ça m'étonnerait qu'il ait pris son fusil, quoi.
Et l'autre question, c'est est-ce que toutes ces données que vous récupérez, vous les partagez dans les bases nationales ?
Alors, on les donne à l'OBHN. Donc, parce que, alors, j'ai essayé de le faire, parce qu'en fait, les collègues, enfin, les bénévoles, bon, ce qui les intéresse, évidemment, c'est le terrain. Déjà, il a fallu quand même les pousser à ce qu'ils puissent les rentrer, quand même. Hein. C'est pas évident, quand même. Hein. Et donc, après, c'était compliqué, parce que oui, mais on les donne à qui ? Faut que ça serve. Donc, à l'OBHN, je vous ai fait voir tout à l'heure une base de données. Pour l'instant, c'est là. Et évidemment, alors, national, évidemment, à l'ADREAL, hein, puisque ça va... Donc après, qui veut les verser à qui, ça... Ah, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'après, les gars, ils sont perdus, quoi, en fait. Hein. Mais on les donne, on les verse à qui, on fait quoi, voilà.
Merci beaucoup pour votre intervention. Je trouve ça très... C'est un beau témoignage de l'activité qu'on peut trouver un peu partout sur le territoire, notamment vers toute l'action d'éducation que vous menez. Je trouve ça formidable. Alors j'ai trois petites questions, certaines très courtes. D'abord, qu'est-il arrivé aux grèves UP dont vous nous avez parlé, les deux, parce que vous avez maintenu un suspense en disant, bon, il y en a deux, on sait qu'il y en a deux, qu'est-ce qu'ils sont devenus ?
Eh bien, ils ont grandi.
Ils ont grandi, tout
va bien.
Ils
ont grandi et ils ont refait des petits.
Bon, voilà. Plus sérieusement, est-ce que le bulletin d'enseignement mutuel a été numérisé ? Est-ce qu'on peut le trouver facilement en ligne pour
Alors, il y a une partie qui a été numérisée. Une partie, les anciennes.
Ouais.
Les anciennes, comme beaucoup en fait, de sciences naturelles qui ont numérisé. En fait, donc, il y a les sommaires et il y a les numérisations, en fait, une partie des numérisations. L'autre partie est en cours. Quoi, en
et
fait.
On trouve ça sur un site à vous, sur Gallica,
Vous regardez sur SESNE. Je ne sais plus quoi. Enfin bon, vous allez trouver. Quoi.
Okay. Et la dernière question, un peu plus problématique. Quelle est la place des autorités municipales, quel soutien plutôt des autorités municipales vous avez dans votre action ? Et est-ce que vous avez pu constater au cours de cette longue histoire de la société des évolutions liées à la politique menée par les autorités municipales et ses conséquences sur la biodiversité ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a effectivement des actions qui sont menées qui favorisent la biodiversité ? Est-ce qu'au contraire, il y a eu des reculs ? Enfin, est-ce que vous avez un peu justement une vision plus large
disons, de... Oui, alors la politique des BOF est à peu près la même depuis quand même un certain temps. Hein, donc, je pense que depuis que je connais, et même un petit peu avant, quoi, en fait, cette politique, en fait, la culture ou même les sociétés, en fait, ont toujours été aidées. Hein, ça, c'est une chose, parce qu'ils ont très bien compris qu'en fait, déjà, les électeurs étaient contents d'avoir de la nature en ville, hein, même des pigeons morts, ils s'en fichent. Hein. Mais donc était content en fait, la population était contente d'avoir et surtout de comprendre et puis de pouvoir emmener les enfants bien entendu leur apprendre etc. Donc ça on a toujours été soutenu là-dessus sans aucun problème. Au niveau de la biodiversité, j'ai pas vu de changement. Je pense pas que ça soit la politique ou quoi que ce soit qui ait changé grand-chose au niveau politique. Par contre, on voit certaines espèces, mais ça. Comme vous l'avez évoqué ce matin, on voit des hausses de température, on en voit ici aussi. Donc on voit des espèces en fait qui ont passé la Loire. Hein, vous parlez du petit longicorne hein, tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Et par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est tout à fait bizarre. C'est par exemple, je pense à l'Apatura iris, c'est les grands marches changeants qu'on voyait, enfin qui étaient signalés. Plus que signalé, d'ailleurs, hein, il y en a des boîtes qui sont au musée hein, au début du XXe siècle, sans aucun problème. D'un seul coup, on ne le voit plus. Et puis là, on commence à le revoir sans problème. Et comme Iphiclides podalirius, qui est le flambé, eh ben, c'est la même chose. On le voit en ville maintenant. Alors, essayez de comprendre. Et ça, ce n'est pas les politiques, par contre.
Merci beaucoup.
Mais par contre, on est aidé. Alors, une association, enfin une société, et il y a des subventions. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure. En fait, il y a un rendu quand même. Donc, le rendu, c'est de pouvoir aller aussi donner un change. Hein. Une convention, c'est ça, en fait. Hein. On vous donne quelque chose, mais vous rendez quelque chose, en hein, quelque sorte. Hein. Et donc, les expositions, les salons des champignons, la présence sur site, les sorties de terrain, etc.